Donc nous allons démarrer notre rencontre avec Jean Pruvot, donc pour une interview qui est titrée sur votre programme « La langue de nos imaginaires, loup et chat, entre mythes et croyances ». Donc Jean Pruvot, qui est Jean Pruvot? Jean Pruvot, il est beaucoup de choses, ce monsieur. Il est professeur à l'université de Cergy-Pontoise, où il enseigne la lexicologie, la lexicographie. Il dirige un master sciences du langage, l'antenne du laboratoire CNRS, lexique, dictionnaire, informatique. Et le terme dictionnaire, donc là, prend tout son sens, puisque c'est un passionné de dictionnaire. Il organise chaque année la journée des dictionnaires, un rendez-vous international des lexicologues et des lexicographes.
Vous êtes invité.
Absolument. Auteur de très nombreuses publications, il a obtenu en 2000 le prix international de linguistique Logos pour Dictionnaire et Nouvelles Technologies chez PUF. En 2007, un prix de l'Académie française pour les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture chez Ofris. Il dirige et rédige des dictionnaires chez Bordas, il a publié un dictionnaire des citations de la langue française, un dictionnaire du Japon, un dictionnaire de la Chine. Membre de l'Institut de langue française, du Conseil national des universités, de divers comités de rédaction de revues internationales, rédacteur en chef des études de linguistique appliquée. Il dirige des collections aux éditions Champion, il a co-dirigé les cahiers de lexicologie. Bref, quelqu'un qui s'est dédié aux mots. Les dictionnaires, d'ailleurs, c'est sa passion, à tel point que sa maison en est envahie.
Oui.
Et vous pouvez intervenir, il n'y a pas de problème. Il est branché ou pas?
Oui. Oui. Oui, tout à fait.
Oui. Donc il était tellement passionné par les dictionnaires et passionné par les mots qu'il a décidé de travailler sur ce qui faisait les mots, d'où ils venaient, comment ils étaient employés dans la langue, quelles étaient leurs connotations, quelle était leur étymologie. Et c'est ce qui nous a donné toute une série d'ouvrages, donc intitulés « Le chat »,« Le loup », »,« Le vin », »,« La mer », »,« M-E accent grave erreur » et non pas « La mer avec les petits bateaux », etc. Donc nous sommes ici pour parler de tout ce travail et de ce qui se cache derrière ces différents livres. Alors Jean, déjà, quelle est la genèse de ces ouvrages?
Je
peux prendre celui-ci, si vous voulez.
Oui, voilà. Déjà, quand on explique tout ce que je fais, je suis moi-même impressionné. Et en vérité, ça se résume à une seule chose, c'est la folie des mots, la folie des dictionnaires. Et avec mon épouse présente, elle est bien obligée de partager ça, et parfois j'ai honte quand je vois tout ce que je suis obligé de lui infliger en dictionnaire. Donc ça, c'est peut-être le premier point, c'est que j'ai rencontré, quand j'avais 20 ans, un professeur, comme ça arrive souvent, qui dirigeait le trésor de la langue française, tout près d'ici, à Nancy, hein, et qui était Bernard Quémada. Et donc, il m'a transmis ce flambeau, cette passion, et après, je n'ai eu de cesse, non pas de l'imiter, parce qu'on n'imite jamais son professeur et son maître, mais enfin d'essayer de me mettre dans ce sillage des dictionnaires. Du coup, je suis devenu véritablement dicopathe, gravement atteint, avec une seule ambition, contaminer le maximum de gens. Et donc c'est pour ça que je crois que j'écris beaucoup, c'est pour contaminer. Parce que je crois que c'est pas une maladie bien grave, mais c'est une maladie qui peut-être même donne un peu de plaisir, enfin je l'espère en tout cas.
Vous y réussissez fort bien, parce que moi j'ai commencé à mettre le nez dans le chat en me disant « Oh, je vais regarder 2-3 pages », et puis une fois qu'on est dedans, ben, on n'arrive plus à en sortir. Donc visiblement, ça fonctionne très bien.
Oui, je crois. Enfin, alors, l'objectif, en vérité, il y a 2 ans, on m'a demandé de diriger éditorialement la Maison Champion. Alors, la Maison Champion, c'est une maison d'érudition qui date de 1874, avec des livres très très chers, qui se vendent à 200, 300 exemplaires, il y en a 150 par an. Et c'est un gros succès quand il y en a 300. Mais c'est vrai que la notion du labyrinthe dans la Renaissance de 1532 à 1534, c'est peut-être pas non plus passionnant, sauf pour quelques passionnés, justement, du sujet. Et donc, quand on a déjà donné les 10 aux passionnés, après, il faut vendre les 150 qui suivent. Donc, si vous voulez, quand je suis arrivé dans cette maison d'édition, mon souci, mon inquiétude, c'était qu'il était dommage d'avoir autant d'érudition tout autour avec les livres. L'érudition, c'est jamais que des livres qu'on consulte, et de ne pas en faire profiter tous les gens qui se passionnent sur un sujet. Donc c'est ce que j'ai voulu lancer avec cette collection. Donc elle a commencé par le vin, ensuite le loup, puis c'était le mariage, préfacé par Alain Rey, puis évidemment le chat, préfacé par Gay-Luc, et puis le chocolat qui va venir, enfin toutes sortes de passions qu'on a tous plus ou moins, en tout cas qui sont largement partagées, et puis d'essayer alors d'ouvrir tous mes dictionnaires, du XVIe siècle à nos jours, les dictionnaires monolingues français, bien sûr, quelques bilingues latins, mais c'est surtout pour le français que ça nous intéresse, les ouvrir et d'en sortir alors des choses étonnantes, parce que dès qu'on fouille effectivement dans ces dictionnaires, on s'aperçoit qu'il y a, je prends le mot mariage, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais quand vous voyez marqué dans le furetière en 1690, mariable, les jeunes filles sont mariables à partir de 12 ans, bon, ça laisse rêveur, on se dit tiens, on n'est pas vraiment dans le même contexte, dans le même contexte historique. Donc on a plein de détails comme ça qui sont vraiment étonnants et qui méritent d'être donnés.
Alors, le vin, le loup, le chat, qui sont essentiellement les thèmes sur lesquels on va travailler aujourd'hui, ce sont des mots qui sont courants, que l'on rencontre beaucoup dans la littérature, que l'on rencontre beaucoup dans les expressions courantes, que l'on rencontre également dans la littérature de fantasy, de fantastique. Hein, le vin, c'est la boisson préférée des vampires, le loup, évidemment, on le voit beaucoup, hein, voilà. Le chat avec toute la mythologie égyptienne, donc forcément ça frappe l'imaginaire. Alors quelle est l'étymologie de ces trois mots? D'où ils nous viennent?
Alors merci de cette question, parce que souvent on veut éviter l'étymologie, mais là elle est justement passionnante. Je dirais quand même un mot, pourquoi ces trois thèmes? Parce que vous voyez arriver le vin, le loup et le chat. Alors le loup et le chat, on peut comprendre, ce sont des animaux, on se demande ce que vient faire le vin. Mais c'est qu'en réalité, quand on adopte un certain nombre de mots comme ça, on s'aperçoit qu'il y a des expressions qui sont transversales. Je m'explique, j'ai découvert, par exemple, dans un dictionnaire du XVIIe siècle, puis après c'est repris au XVIIIe, que quand un vin est bon, à midi on en a pris un très bon de la région, on dit qu'il est à une oreille. Un vin à une oreille est un très bon vin. Ça veut dire qu'on penche légèrement la tête et que, bon, on a du plaisir. Si c'est un vin à deux oreilles, il n'est pas bon du tout. Si je fais ça, on montre les deux oreilles, ce n'est pas un bon vin. Et donc le vin à deux oreilles, c'est une expression qui a disparu, comme le vin à une oreille, mais bon, qui était pour moi marquante. Et puis je m'attaque tout de suite après, si on peut dire, au loup. Et du côté du loup, je découvre une expression qui me plaît, tenir le loup par les deux oreilles. Et elle est présente dans tous les dictionnaires du XVIIe et du XVIIIe. Et elle est absente quasiment au XXe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est une situation que nos hommes politiques et nous-mêmes connaissons assez souvent, c'est-à-dire qu'on est dans une situation délicate, difficile, donc on tient le loup, c'est-à-dire la difficulté, le problème, par les deux oreilles, mais si on lâche une oreille, on est mort, on est dévoré, parce qu'on sait bien que lâcher une oreille, c'est évidemment le loup qui se retourne et vous mord directement. Donc tenir le loup par les deux oreilles, je me dis tiens, c'est vraiment amusant, on est là dans une filiation, le vin à travers les oreilles, et puis j'arrive donc du côté du chat, et là il y a dire un secret dans l'oreille d'un chat, ou bien un nid de souris, c'est comme un nid de souris dans l'oreille d'un chat. Là aussi, bon, ce sont des expressions, des formules qui ont disparu. Alors évidemment, un nid de souris dans l'oreille d'un chat, ça veut dire que c'est improbable, c'est impossible. Et en revanche, dire un secret dans l'oreille d'un chat, c'est que ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance, et donc c'est sans conséquence. Et alors je m'aperçois que, je ne vais pas vous faire une conférence sur les oreilles, mais j'ai l'impression que de thème en thème, on pourrait trouver les oreilles, les yeux, c'est-à-dire que les grands symboles se mélangent. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, d'un commun accord ce matin, on a ajouté le vin, d'abord parce que c'est toujours festif, que ça donne un peu d'inspiration de temps en temps, et en même temps, finalement, il y a un lien. Alors, l'étymologie. L'étymologie, là aussi, peut-être en deux mots, quand on cherche dans les dictionnaires étymologiques, on vous dit souvent « vient du latin, vient du grec ». Et puis après, bon, on n'a pas tout fini, mais latin, mais encore, et avant. Et en général, on vous dit « famille indo-européenne », »,« famille de langue indo-européenne ». Une famille de langue indo-européenne, ça veut dire que dans les alentours de 1800, on a découvert que toutes les langues de l'Europe, à part le basque et quelques autres langues très rares, venaient d'une même souche, qu'on a imaginé être du côté de l'Oural, maintenant on pense que c'est du côté de la Turquie, enfin peu importe, une même souche, et qui avait engendré des langues en Inde et en Europe. Ce qui fait que le grec, le latin, le français, l'allemand et quelques langues de l'Inde sont de même souche, effectivement. Donc on retrouve à ce moment-là une sorte de racine unique indo-européenne. Eh bien, pour les mots comme notamment le vin, par exemple, il y a une autre grande famille de langues qui n'a aucun rapport, c'est la famille de langues sémitiques, toutes les langues africaines et langues arabes. Et bien le vin a des origines dans les deux. On ne sait pas, on est incapable de dire si ça vient d'une langue sémitique, où on a yono, le vin, ou de l'autre côté, vino, et avant wine, et qu'on va retrouver dans toute une série d'autres mots. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve aussi très beau, c'est-à-dire que les mots les plus courants, qui sont ceux que j'ai choisis, souvent le loup, le vin, j'évoque le chocolat, la rentrée, le parfum, sont des mots qui sont tellement incrustés dans notre langue depuis si longtemps, que quand on en recherche les origines, et bien finalement, elle reste mystérieuse. Que des mots aussi courants gardent des origines mystérieuses, c'est étonnant. Et alors quand vous prenez le mot « loup », qui va donner évidemment des racines, on aura « lupus » en latin, et puis on aura des mots comme « la louve »,« lupa », alors j'ose pas l'aborder, mais on va y aller. Quand on nous dit, par exemple, que les Romulus et Rémus qui ont fondé Rome et ont été donc allaités par la fameuse louve, c'est une très belle image, il est probable d'ailleurs que cette image était forte, mais il y a aussi d'autres interprétations qui peut-être d'ailleurs étaient présentes dans l'esprit des gens à l'époque, il y a quelques siècles donc, c'est que loupa, ça voulait dire aussi prostituée. D'où le lupanar. Le lupanar, c'est l'endroit des louves, parce qu'on considérait que les louves, évidemment, avaient une sorte de sexualité, de sensualité très forte, d'où le lupanar. Et il est possible que Romulus et Rémus, la légende, soit d'ailleurs tout aussi belle, une prostituée au grand cœur, et qui s'occupe donc de ces deux louveteaux qui vont fonder Rome. Quand on cherche le chat, évidemment, on tombe sur Catus, sans aucun problème. Et puis, bon, il y a d'autres mots à côté qui n'ont pas marché, mais quand on dit Félix le chat, par exemple, Félix, c'était le nom du chat, et Félix, c'était qui allaitait, hein, c'était qui donnait, qui était fécond, en fait. Donc l'image du chat a toujours été quelque chose de prolifique. Bon, mais une fois qu'on a dit Catus, c'est qu'on remonte au-dessus, on ne sait pas d'où ça vient. Le chat garde aussi ses mystères. Donc l'étymologie, effectivement, n'est pas sans nous donner une sorte de plaisir. Il y en a une autre, c'est du côté du loup, l'orthographe. On n'y fait jamais très attention à l'orthographe. Mais dans le fond, quand on prend loup, L-O-U-P, lupus, on a aussi des communes qui s'appellent le, Saint-Le. Et on dit à la queue le-le. À la queue le-le, c'était à la queue, donc U-E, bien sûr, U-E, L-E, plus loin, L-E-U. À la queue du loup, le voulant dire du. Donc c'était à la queue, le-le, du loup. Et on disait le-ou, hein, ça s'écrit le-ou comme fleur, ce qu'on dit, c'est pas fleur, mais fleur, hein, de l'orthographe souvent, traduit et trahi d'une certaine manière, témoigne d'une prononciation d'autrefois, et c'est pas étonnant que les Anglais disent flower, puisque nous on disait flower, hein, donc ces diphtongues on les a perdus. Mais du côté du loup, à la queue le-le, Saint-Le, là aussi on est dans une étymologie bon, qui n'ont pas de charme. Alors les gens qui sont de ces villes, de Saint-Le, il y en a pas mal, ils savent que c'est le loup. Mais bon, je sais que vous êtes spécialiste de toponymie, c'est-à-dire les noms de lieux. Ben c'est vrai que les noms de lieux sont souvent marqués aussi par des choses de ce type. Donc voilà pour les étymologies, en sachant que on a l'anglais cat, l'allemand katz, le russe kot, l'italien gâteau, tout ça c'est la même racine, et par conséquent on est là dans des mots qui d'une certaine façon dépassent même, et c'est ce qui fait le bonheur de l'imaginaire aussi, dépassent même le territoire français, le territoire gaulois, pour être relativement internationaux.
Alors, puisqu'on parle d'imaginaire, justement, là, on a un peu abordé l'étymologie, la prononciation, mais on s'aperçoit qu'un mot, c'est pas juste un mot, mais que c'est une idée derrière, c'est une représentation mentale, c'est un symbole, et c'est quelque chose qui va être partagé par tout un groupe d'humains et qui finalement est très fortement lié à notre imaginaire. Donc justement, ces trois mots dans l'imaginaire, comment ils ont évolué au fil du temps?
Alors il y a, je vous l'ai dit, bon, enfin, j'en ai peut-être pas donné le chiffre, mais là c'est vrai parce que j'ai fait un déménagement, les journalistes disaient que j'avais 10 000 dictionnaires. Bon, je disais, ils exagèrent un peu, bon, ça devait être un journaliste tout à fait. Et puis j'ai vu déménager, et là, j'ai dû les compter, et j'ai porté les caisses, c'était un enfer. Et j'aurais préféré en avoir 3 000 que 10 000, surtout que c'était au troisième étage sans ascenseur. Et au point que d'ailleurs, je transportais ces caisses, et comme les gens me voyaient transporter ces caisses, il y avait une dame juste en dessous, un petit peu âgée, à qui je disais, vous viendrez prendre un pot à la maison quand tout sera fini. Puis après, je me suis dit, mais elle va prendre peur, elle va s'imaginer que l'étage de 10 000 dictionnaires va lui tomber dessus. Donc j'ai évité le pot pour ne pas trop avoir d'ennui après. Mais j'ai donc effectivement entre 9 et 10 000 dictionnaires de tout poil. Ça va du petit ouvrage de coiffure de 40 pages, je ne sais pas, Marcelin Berthelot, la grande encyclopédie en 30 volumes, etc. Et là, il y en a évidemment des anciens, ça va du 16e au 20e, 21e. Il y en a qui ont un charme fou qui ne s'appelle pas dictionnaire, et notamment il y a un ouvrage qui s'appelle Les épithètes. Les épithètes de Maurice de Laporte. Alors, épithète, c'est des souvenirs anciens, hein. L'adjectif épithète, c'est l'adjectif en fait. Et au XVIe siècle, au moment où on construit la langue, où il y a cette fameuse défense et illustration de la langue française, où les poètes disent « assez de latin et maintenant écrivons des poèmes en français, c'est Ronsard, c'est Dubellet, etc. » Eh bien, il y a Maurice de Laporte qui rédige un ouvrage qui s'appelle « Les épithètes » et qui donne des mots, les mots les plus courants. Il se trouve que « et le vin, et le loup, et le chat » s'y trouvent, parce qu'ils sont justement relativement patrimoniaux, si on peut dire. Et il donne tous les épithètes au XVIe siècle qu'on peut ajouter à ces mots. Et alors, quand vous prenez le mot « loup », ça manque pas de charme, parce que le premier mot, c'est « loup ravissant ». Alors, ravissant, bon, c'est pas tout à fait l'image qu'on a, moins que ce soit le loup qu'on porte comme un masque. En fait, pensez au ravisseur, et vous aurez compris que c'est le loup qui ravit, qui enlève quelqu'un et qui va le dévorer. Donc, c'est pas du tout le loup charmant. Ravissant, au début, c'était enlevé au ciel, être ravi, c'était enlevé. Bon, il nous est resté ravisseur, et le loup ravissant garde. Alors, loup ravissant, affamé, sauvage, cruel, engouleur ou engloutisseur, c'est des mots qui n'existent plus, famélieux, qui est toujours affamé, ça n'existe plus non plus, insatiable, glouton, furieux, la peur du berger, mauvais, pernicieux, acharné, alors acharné, c'est-à-dire qui aime la chair, hein. C'est comme le charcutier, charcuite, ennemi de la brebis, dévorant, effroyable, dangereux, âpre, triste, écumeux, pillard, insidieux. Et dans le fond, avec cette série d'adjectifs, on a un portrait du loup. On a une image du loup au XVIe siècle. Voilà comment on perçoit le loup au XVIe siècle. Si on prend le vin, alors le vin, évidemment, c'est quand même heureusement plus joyeux, encore qu'il y a quelques aspects. Ça commence par joyeux, délectable, savoureux, riant, clairet, rude, sévère, avec de la sève. On dirait pas aujourd'hui qu'un vin est sévère, enfin, de manière spontanée, fumeux, toulousain, bon, tant mieux pour Toulouse, resbaudissant, moisi, là c'est moins bien, rebelle, un vin rebelle, bon, un vin revêche, un vin nectarien, un vin hippocratique, un vin mielleux. Rappelons-nous que sous l'Antiquité, pour un empire, je ne boirais pas de vin de l'Antiquité. Hein. Il y avait de temps en temps du goudron et du miel. Alors le miel, encore passons, mais le goudron, j'y tiens pas trop. Je ne pense pas que c'était... Bon, mais à l'époque, c'était... Et qui plus est, ce vin était séché, donc on le faisait réchauffer dans de l'eau. Hein. Il y avait des vins parfois de 2 à 3 siècles. Alors après, vous avez vermeil, beau, pétillant, ministre de la mort. Le vin ministre de la mort, bon, on préfère le donner au voisin. Friand, trouble cerveau. Bon, on ne peut pas dire qu'on n'a pas tous été une fois au moins dans cette situation d'un vin trouble cerveau. Il y a des adjectifs comme ça qui sont délicieux. Là, il n'est pas marqué, mais je ne peux pas m'empêcher de l'ajouter. C'est arrivé avec ma fille il y a 2 jours qu'elle n'avait pas eu le temps de vraiment préparer un dîner. On était quand même invité pour l'anniversaire de ma petite fille. Et le repas était expédié, il n'y avait pas de vin, il n'y avait rien. Et je lui ai dit, mais tu sais, c'est un repas chasse-cousin. Et le vin, il y avait un vin qu'on appelait le vin chasse-cousin. C'était le vin le plus mauvais qui soit, qu'on gardait précieusement. Et quand les cousins débarquaient et qu'on n'avait pas tellement envie de les garder le soir, on leur offrait très vite le vin chasse-cousin. En général, ils n'en prenaient qu'un verre et s'en allaient assez vite. Donc là, le vin chasse-cousin fait partie des choses. Et puis ça finit par libre, puissant, vin libre, puissant. Libre, puissant, on ne serait pas très loin du loup. Hein. Alors le chat, il est friand, miauleur, privé. Alors parfois, il faut traduire, parce que privé, le premier, même si je suis tout le temps submergé par les mots, je ne voyais pas très bien ce que ça voulait dire. Alors on cherche dans un dictionnaire de l'époque, et privé, ça veut dire domestique. On avait des lapins privés, c'est-à-dire apprivoisés. Donc, rouant, gris, souriant, souriant, c'est-à-dire pour les souris, hein, adjectif qui a disparu. La morora, le chat, la morora, bon. Coquin, moucheté, cendreux, patient. Donc, on a là des adjectifs qui sont typiques d'une époque. Et puis, alors, vous évoquiez la prononciation. Il y en a un dans les dictionnaires que j'évoquerai plus tard, mais qui est littré. Et qui, lui, était très attentif à la langue, bien sûr, c'était son ambition au XIXe siècle, on est donc en 1873, et Littré était très attentif à la prononciation. Mais du coup, alors on se dit, bon, il exagère, alors il explique, je vous le lis, hein, le P du loup ne se lit jamais, un loup enragé. Bon, on n'a pas très envie de dire un loup enragé. Bon. Au pluriel, laisse se lit, des loups enragés. Mais après, il condamne le fautif, les loups enragés. Là, il faut dire les loups enragés. Bon, alors déjà, on se dit, tiens, c'est vrai que j'ai tendance à dire les loups enragés plus que les loups enragés. Mais où ça trouble, où c'est troublant, et où c'est pour ça que je l'ai quand même relevé, c'est pour le chat. Moi, j'ai toujours dit chat échaudé. Chat échaudé craint l'eau froide. Bon, ben, Littré explique, on dit chat échaudé. Mais si je disais chat échaudé, on se dirait, oui, il est vicieux. ou alors, il prononce bizarrement. Et on disait, et Littré le dit, on disait « chat en poche ». Bon, là aussi, ça peut prêter à confusion. D'ailleurs, quand je dis ça, ça explique pourquoi peut-être la prononciation a disparu. Parce que je prétends à confusion, à une époque où ça ne prêtait pas à confusion au 19e, bon, ben, on abandonne la prononciation pour avoir quelque chose de plus sympathique. Ouais.
Alors, ces mots, donc, on voit bien là, qui commencent à se dessiner des règles sur la manière de les prononcer, sur les adjectifs qui vont les... Donc, sur ces fameuses épithètes, arrive un moment où on commence à fixer une première définition de ces termes.
Exactement. Il y a un moment, alors je suis bien obligé de raconter en deux mots l'histoire des dictionnaires, je ne vais pas vous passer en revue les 10 000, mais il se trouve qu'en Occident, ce n'est pas la même chose en Asie, tout dépend du grand livre religieux. Il se trouve que le grand livre religieux de l'Occident, c'était la Bible. Que la Bible était araméen, mais ensuite au grec, puis surtout en latin. Et donc, les dictionnaires se sont faits sur les grands textes religieux. Donc, nos premiers dictionnaires étaient bilingues, c'est-à-dire latin-français, pour expliquer les mots donc de la Bible. Et puis, en 1539, Robert Étienne a l'idée d'inverser. En disant que ça va aider les clercs, les étudiants de l'époque, qui évidemment avaient comme langue le latin, et il fait un dictionnaire français-latin, François-latin d'ailleurs, en un mot. Et là, c'est le début des dictionnaires, mais c'est déjà encore un bilingue. Et il faut attendre le XVIIe siècle, le grand siècle, siècle de Louis XIV, Louis XIII d'abord, Louis XIV, que se passe-t-il après la Renaissance au XVIe siècle, où c'est foisonnant, c'est un grand désordre politique, il y a la guerre de religion, il y a eu le grand roi avec Henri IV, mais à la fin ça s'est assez mal terminé ce XVIe siècle avec les guerres des religions. Il y a un certain désordre, mais il y a eu un foisonnement littéraire, on a eu des gens comme Rabelais, Ronsard, Montaigne. Arrive le XVIIe, eh bien on est dans la monarchie absolue. Et là, c'est la centralisation. Et Colbert disait, faites-moi des bons chiffres, écrivez-moi des bons chiffres, et je vous ferai des bons comptes. Et Paillasson, qu'on retrouvera plus tard, dira, écrivez bien, et on pourra mieux régler le gouvernement. Et donc c'est une centralisation, et du coup, le roi, les rois, la monarchie française, a besoin d'un dictionnaire qui valorise non pas le latin, qui n'est pas la langue du roi, mais la langue de l'État. Et la langue de l'État, c'est le français. Et du coup, Louis XIII, Richelieu plus précisément, mais avec Louis XIII, fonde l'Académie française en 1635 et donc avec pour mission de faire un dictionnaire de la langue française, monolingue, français. Alors ça peut paraître curieux, mais des gens comme Molière, comme Racine, comme Boileau, comme La Fontaine, n'avait pas de dictionnaire monolingue. Pour nous, ça paraît aberrant de ne pas avoir un petit Robert ou un petit Larousse ou avoir un dictionnaire quelque part pour repérer le sens, l'orthographe, etc. Eh bien, nos écrivains du siècle classique ne l'ont eu que tardivement, puisque le premier dictionnaire monolingue date de 1680. L'Académie, qui est une grande chose avec de grands écrivains à l'époque, et encore aujourd'hui, bien sûr, et on y a Racine, Boileau, La Fontaine et quelques autres, a pris du retard, elle a souvent été en retard dans la rédaction de son dictionnaire, et son dictionnaire n'est paru qu'en 1694. Mais en 1680, apparaît avec Richelet le premier dictionnaire monolingue français-français. Alors évidemment, c'est intéressant, et c'est là où votre question me touche, parce que j'ai, pour chacun de ces mots, immédiatement foncé sur la première définition du chat, du loup, du vin en langue française. Alors, pour le vin, c'est assez sobre, hein. Vin, liqueur qui sort des raisins. Bon, liqueur, du coup, parce que liqueur, pour nous, c'est pas vraiment ça, mais liqueur, tout ce qui est liquide, comme vin ou eau. Et il faut fouiller les mots, parce que aujourd'hui, si on me sert de l'eau et qu'on me dit est-ce que vous trouvez bonne la liqueur, bon, je suis un peu déçu, quand même. Alors, exemple qui est donné aussi, une douce, une charmante, une agréable, une traîtresse liqueur. Le vin est toujours avec les deux aspects, le côté très pertinent, positif, joyeux, et en même temps, le côté traître. Et puis, pour le loup, on va voir, alors le loup est passionnant, animal sauvage, qui ressemble à un gros mâtin. Le loup a les yeux bleus, c'est pas vrai, un husky peut-être, mais... et étincelant. Les dents inégales, rondes, aiguës et serrées, l'ouverture de la gueule grande et le cou si court qu'il ne le peut remuer. De sorte que s'il veut regarder de côté, il est obligé de tourner tout le corps. Sa cervelle, à ce qu'on dit, croît et décroît selon le cours de la lune. Bon, donc, vous voyez qu'il y a de quoi rêver.
Oui, en plus,
hein,
on trouve la connotation tout de suite vers le loup-garou.
Oui, c'est ça. Et alors, le loup étant dégoûté, se purge avec de l'herbe ou du blé en verre. Il mange de la terre glaise qui lui sert quelquefois d'aliment et quelquefois de remède. Lorsque les loups sont fort pressés de faim, ils se mangent à ce qu'on croit les uns les autres. Donc, vous voyez, la première définition du loup, elle est riche. Elle est assez fausse. Et elle manque pas, évidemment, de toute cette poésie, ou en tout cas de cet imaginaire, hein, qui est vraiment très fort. Et quand on regarde le chat, alors c'est presque poétique, animal très connu, qui est ordinairement gris ou noir, gris et blanc, ou noir et blanc, donc c'est joli, qui a les yeux étincelants, qui est fin, qui vit de souris et de toutes sortes de chats. Il hait les rats, les souris, les chiens, les aigles, les serpents, et l'herbe qu'on appelle la rue. Alors, ce que haïssent les animaux ne manque pas de charme, parce que si vous cherchez le chien, vous avez marqué, le chien hait les loups et les crocodiles. Bon, alors, on se demande pourquoi les crocodiles, et en vérité, c'est tout simplement parce qu'on reprend des croyances ou des choses qui viennent directement de l'Antiquité, où effectivement, en Égypte, les loups ne devaient pas se précipiter sur les crocodiles autour des pharaons. Alors, on a évidemment quelqu'un derrière qu'il faut tout de suite regarder, tout de suite lire, c'est Furetière. Parce que les trois premiers dictionnaires de notre langue française, Richelet en 1680, dans le fond, c'est l'ancêtre de Paul Robert, c'est l'ancêtre de Littré. Il y a des citations, c'est un dictionnaire de langue française, l'objectif est de décrire l'usage du mot dans la langue, même si on le voit pour le loup, on est un peu quand même du côté de la description. Et puis, en 1690, il y a le Furetière. Furetière, c'est l'ancêtre du Larousse. C'est vraiment un dictionnaire encyclopédique qui a pour objectif de montrer ce que les choses désignent. Je dis en deux mots pour que vous compreniez. Si je prends le mot champignon, par exemple, eh bien, dictionnaire de langue, style Richelet, Robert ou Littré, vous aurez plante charnue qui pousse dans les endroits frais et humides, composée d'un pied et d'un chapeau, et puis vous aurez des citations, et vous aurez Colette... ramasser des champignons dans la forêt profonde, etc. Et puis vous aurez aussi appuyé sur le champignon, la cité champignon. Et si vous prenez un dictionnaire encyclopédique du côté Petit Larousse, donc Furetière, sur lequel on va revenir, vous aurez végétal sans chlorophylle qui fait partie des talophytes, et puis les moisissures qui font partie des champignons, et la planche des champignons qui peut être mortelle quand ils se trompent de pastille, comme c'est arrivé en 93. C'était le dictionnaire du crime parfait, puisque les champignons vénéneux étaient marqués comestibles et vice-versa. L'imaginaire, là, pouvait vraiment fonctionner. Alors, furetière, j'en dis un mot. Furetière, pour le vin, ne dit que peu de choses. Liqueur qui est tirée du jus des raisins et qui enivre ceux qui en boivent trop. Donc, toujours cette image. Mais pour le loup, alors là, c'est très compliqué. Animal farouche demeurant dans les bois et fort dommageable au bétail parce que c'est le plus goulu, le plus carnassier, le plus fin des animaux. Il a un odorat exquis. C'est une espèce de chien sauvage qui a une tête carrée et dont les côtes sont posées selon la longueur de son corps ou parallèle à son épine du dos. On appelle chiot les petits de la louve. On dit ligner la louve pour la couvrir. Et ça continue en évoquant Rémus, Romulus. Et puis trois types de loups. Le loup matin qui ne vit que de charogne. Le loup lévrier qui ne vit que de rapine. Et le loup cervier qui ne vit que de gibier qu'il surprend. Et il est plus grand que le renard. Donc on a là toute une série de choses. Et pour le chat, pas grand chose de mieux, si ce n'est quand même un imaginaire supplémentaire. Le chat, bon, on en parlera tout à l'heure, il y a évidemment l'Égypte auparavant, Bastet, ce chat qui avait sauvé les Égyptiens de la famine d'une certaine façon, puisque ce qu'ils avaient découvert, c'est que le chat tuait les souris, donc protégeait les céréales, et en même temps ne tuait pas les volailles et autres petits animaux, donc il était parfait. Et très vite, il a été divinisé, très vite, donc, il y a eu la déesse, avec une tête de chat. Et quand l'Église catholique a pris le dessus au Moyen-Âge, évidemment, le chat était éliminé parce que c'était un symbole païen. Donc le chat là, a eu beaucoup de défauts, et notamment le chat noir, diabolique par essence, hein, dans l'image, évidemment. Alors voilà ce qu'on dit pour le chat. Le chat a les pattes, les dents, les yeux et la langue semblables au lion. Ces animaux ont tant de conformité ensemble que les Turcs sont persuadés qu'il y a quelques fondements à ce que dit là le Coran, que le chat naquit dans l'arche de Noé, de l'éternuement du lion. Bon, voilà, alors, une origine possible du chat.
Oui, alors en plus, ce chat, avec le lien avec le lion, Bastet, elle a quand même deux images. Hein. Elle est, quand elle est calme, elle a sa tête de chat, et quand elle se met en colère, elle est porteuse, finalement, de la puissance du soleil et des dieux, et elle prend sa figure de lionne. Donc peut-être que c'est ça qui est passé là. Alors, je voulais revenir à la définition de furetière au niveau du loup. On voit là qu'il est très nettement en concurrence avec l'homme, et que du coup, on n'en fait pas un portrait très, très agréable.
Alors, la question me permet de rebondir d'un siècle, en fait, et d'arriver au XVIIIe. Là, on quitte, si vous voulez, le grand siècle, avec les belles images, les représentations du vin, du loup, du chat, bien marquées. Et ce chat, donc, alors le chat, faut ajouter que derrière Ambroise Paré, il disait que c'était un animal venimeux qui infecte par son poil, par son haleine et par sa cervelle, la cervelle toujours présente comme pour le loup, son poil est dangereux à avaler par-dessus tous les autres, comme on en voit l'exemple de ce Romain qui mourut pour en avoir avalé un dans son lait. En fait, attention, quand vous buvez du lait, c'est mortel si le chat est dans le coin. Au XVIIe, il dit avoir vu des gens qui, pour avoir toujours couché avec un chat, sont devenus phtisiques, efflanqués et enfin sont morts. Donc vous voyez, le chat n'est pas en odeur du tout de sainteté au XVIIe. On sent le poids de l'Église et on sent que l'animal, bon, n'est pas bien perçu. Cependant, ça c'est la représentation des dictionnaires. Parce que si on regarde du côté de l'histoire, on sait que Richelieu avait toujours des chats tout autour de lui, Colbert aussi avait toujours une portée de chatons qui était là, parce qu'il trouvait ça très beau. Et donc, si vous voulez, il y avait un discours et il y avait une autre réalité, qui était d'aimer quand même cet animal, évidemment très, très chaleureux. Alors, pour répondre vraiment à votre question, on arrive au XVIIIe siècle, on quitte la monarchie absolue, on y est toujours, mais on la critique, hein, ça va être le propre des philosophes Diderot, d'Alembert, Rousseau et Montesquieu en tout premier, et du coup, apparaît un nouveau type de dictionnaire aussi, qui se veut critique, c'est effectivement l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cette encyclopédie avec 35 volumes, elle a pour objectif d'être beaucoup plus objective et d'éclairer, hein, c'est le siècle des Lumières, et par conséquent sur le vin, sur le loup, sur le chat, on attend des éclairages et de repousser des superstitions. Alors ça marche très bien pour le vin, d'ailleurs le vin, il n'y a pas particulièrement de superstition à avoir, sauf que là, ce qui passionne les encyclopédistes, Il y en a 4 ou 5 pages en encyclopédie, c'est la fermentation. Pour eux, la fermentation du vin, l'aspect chimique, en quelque sorte, et naturel, naturel et artificiel en même temps, de la fabrication du vin, c'est quelque chose qu'ils trouvent extraordinaire. Ils y mêlent aussi les animaux, en disant par exemple qu'il y a des bulles bienfaisantes, certes, mais attention aux exhalaisons qui se forment dans les celliers comme un nuage qui éteint la flamme des chandelles. Les effets pernicieux de cette vapeur sur les animaux qui la respirent sont plus funestes que ceux d'aucun autre poison et leur cause une mort soudaine ou des maladies très graves du cerveau et des nerfs sans apparence d'humeur morbifique ou de lésion de viscères. Bon, c'est toute une époque, les humeurs morbifiques, on espère y échapper. Et du coup, on passe du côté du loup. Et là, vraiment, la question appelle une réponse des philosophes qui est surprenante parce qu'ils sont, j'ai envie de dire, darwinistes ou en tout cas écologistes presque avant l'heure. Ils disent en deux mots que si le loup est un animal extrêmement difficile à chasser, pervers même, selon les chasseurs de l'époque, c'est à cause de l'homme. C'est parce qu'il y avait deux grands prédateurs du gros gibier dans les forêts. Le gros gibier, c'est-à-dire les cerfs, les biches, le gros gibier que n'attaque pas le renard ou d'autres carnassiers. Et il y avait d'un côté l'homme, évidemment, c'était sa chasse préférée, le sanglier, etc. Et puis de l'autre côté, le loup. Et que du coup, il y en avait un de trop, il y avait un prédateur de trop. Et que l'homme a tout fait pour supprimer ce concurrent, ce prédateur qui le gênait, et il l'a fait de deux manières. Ben, d'abord en le chassant. Alors la chasse, on va y revenir, mais elle est stupéfiante parfois, je pense, à l'Angleterre. Et il l'a fait aussi en continuant d'alimenter tous les fantasmes sur le loup, en le montrant beaucoup plus, évidemment, monstrueux qu'il ne peut l'être. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il faut remettre toutes ces pendules à l'heure. Mais alors, par exemple, en Angleterre, vous savez, quand vous fouillez dans le dictionnaire, on est ignorant, hein, c'est après qu'on découvre. Il y a des tas de choses, je ne savais strictement rien du loup et d'Angleterre. Et je découvre dans un dictionnaire du 18e, il n'y a plus de loup en Angleterre, disent-ils. Je trouve un dictionnaire de la même époque, l'Angleterre est infestée de loups. Bon, alors vous êtes embêté, d'un côté c'est infesté de loups, de l'autre côté il n'y en a plus du tout. Et puis vous trouvez un troisième dictionnaire qui l'explique, et puis des documents historiques aussi. Tout simplement, effectivement, l'Angleterre était infestée de loups, et pour s'en débarrasser, ils ont condamné à mort je ne sais combien de personnes avec beaucoup de facilité, puisque les gens pouvaient échapper à la condamnation à mort à condition qu'ils apportent 10, 12 ou 15 têtes de loups. Donc évidemment, on condamne à mort, et après l'autre se dépêche d'aller chasser le loup et d'amener les têtes de loup qui vont lui valoir la grâce. Et on explique que c'était en Angleterre, mais pas en Écosse. Et qu'en Écosse, pour éviter que les loups d'Écosse ne descendent en Angleterre, il y avait une armée de dogues, allemands ou anglais, je ne connais pas trop là, cette race-là, s'il y avait des variantes anglaises, mais qui étaient là pour protéger la frontière et empêcher les loups de passer. Alors évidemment, tout ça est à vérifier de manière précise, mais enfin, c'est quand même des documents bon, qui ne manquent pas de charme. Et donc, pour les encyclopédistes, eh bien, le loup est devenu pervers à cause de l'homme. Il était nocturne, il était diurne, pardon, il est devenu nocturne parce que l'homme le chassait sans merci. Il a appris à faire de faux terriers, il a appris à courir très longtemps dans les rivières et à échapper à l'homme. Et puis, s'il aime la chair humaine de temps en temps, eh bien c'est aussi à cause de l'homme, parce que pendant les guerres, les hommes laissaient les cadavres, et les loups, bien sûr, se servaient. Et donc, ils ont pu apprécier la chair humaine à sa juste valeur. Bon, moi, j'ai jamais goûté, mais je ne le souhaite pas non plus, hein, je ne me sens pas vraiment un loup. Alors, ça, c'est du côté du loup, où là, vraiment, ils sont darwiniens ou écologistes avant l'heure. Du côté du chat, ça se passe mal pour le chat, il faut vraiment attendre le 19e. Ça se passe mal parce que Ambroise Paré avait auparavant, non, les 16e, 17e, Ambroise Paré avait bien dit que le chat était venimeux, infecté, la phtisie, on vient de le voir tout à l'heure, mais il a dit aussi au 18e des choses qui ont été reprises par Buffon. Buffon, lui, détestait les chats en disant que c'était un animal domestique infidèle qui ne méritait pas l'amitié, mais qu'on était obligé de garder parce qu'il s'occupait des souris. Et c'est vrai que le chat est apprécié énormément en tant que eh bien, chasseur effréné de souris et de rats, mais n'est pas très apprécié par les gens du 18e. Alors, ce qu'on fait à ce chat est abominable. Si vous consultez l'encyclopédie, je crois qu'on peut la consulter sur Internet, il y a à peu près 2 à 3 pages, en tout cas une grande page, puisque c'est des grandes colonnes, sur la dispute scientifique sur l'œil du chat. Je vous lis le passage. Ce qui arrive à l'œil du chat vivant, plongé dans l'eau, est d'une explication plus difficile. Alors vous imaginez déjà le chat vivant plongé dans l'eau. Bon. Est d'une explication plus difficile et a été aussi autrefois dans l'Académie des sciences le sujet d'une grande dispute. Voici les faits. On a découvert que si on plonge un chat dans l'eau et que l'on tourne la tête de sorte que ses yeux soient directement exposés à une grande lumière, il arrive que, malgré la grande lumière, la prunelle de l'animal ne se rétrécit point et qu'au contraire, elle se dilate. Et dès qu'on retire de l'eau l'animal vivant, sa prunelle se resserre. Que l'on aperçoit distinctement dans l'eau le fond des yeux de cet animal qu'il est bien certain qu'on ne peut voir à l'air. Et etc. Il y en a des pages sur la réaction de l'œil du chat plongé dans l'eau vivant. Bon, et tout ça avec des conclusions, des débats, une polémique qui a duré une dizaine d'années avec je ne sais combien de chats plongés dans l'eau. Alors, c'est assez effrayant, bon, la SPA a vraiment manqué. Et alors, de l'autre côté, si vous étiez chat noir, là c'était guère mieux parce que la superstition faisait que si un chat noir traversait devant vous, vous risquiez la mort. Donc évidemment, plus on supprimait de chats noirs, plus longtemps vous pouviez vivre. Et il y avait même des bûchers de chats noirs, hein, donc assez régulièrement. Donc on est quand même au 18e. Et si le loup bénéficie d'un regard qui est cette fois-ci plus lucide, il n'en est rien pour le chat. Alors, le chat attire aussi, parce que quand on le caresse dans l'obscurité, il y a des aspects électriques, vous savez, c'est cette électricité statique. Alors ça aussi, ça passionne les scientifiques, ça effraie évidemment le public non cultivé. Et alors on explique, c'est que les corps composés ou remplis de parties sulfureuses luisent quand ces parties sulfureuses sont agitées par le mouvement vital, le frottement, le choc ou quelque autre cause mouvante. Et enfin, les académiciens disent qu'ils n'y croient pas, les académiciens, mais les philosophes disent qu'ils n'y croient pas beaucoup, mais néanmoins, ils le reprennent sans trop critiquer. Et alors, par exemple, si vous êtes atteint de alopécie, c'est un joli mot parce que ça vient de Alopex, le renard qui perd ses poils régulièrement, et donc l'alopécie, c'est perdre un petit peu ses cheveux, comme ça nous arrive à tous, enfin du côté des hommes, mais pas des femmes. Moi, ça manque pas de charme non plus, hein, donc il faut garder ça avec sérénité, mais si ça ne vous plaisait pas, alors il y avait un remède au 18e qui était très bon, que je n'ai pas essayé, mais c'est, alors on disait la fiente de chat, hein, et donc vous prenez la fiente de chat et vous la posez sur le crâne longuement une nuit entière, bon, ça peut ne pas plaire à votre épouse, c'est pas forcément
très saillant. Je vois certaines épouses bon, qui se sont retournées vers leur homme là, disant chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire.
C'est un truc, je ne garantis pas. Et alors, l'urine distillée de chat, pas pour les cheveux, leur tête broyée, mise ensemble, le foie, là je cite l'encyclopédie, hein, leur arrière-feu, c'est-à-dire leur arrière-train, même portés en amulette, ont été célébrés comme des remèdes admirables. Bon, donc on voit que le chat au 18e chasse les souris, chasse les rats, soigne de la calvitie éventuellement, mais en tout cas, bon, on n'est pas encore l'animal qu'on va fêter, et là vous devez vous méfier avec les oreilles de chat, je devais avoir hâte qu'on soit au 19e.
Oui. En fait, elles ont poussé quand j'ai su que j'allais parler de chat avec vous. Elles sont apparues cette nuit mystérieusement. Alors, ce loup, ce chat, et puis le vin, donc, qui ont été posés sur le papier, donc dans l'encyclopédie, ils ont continué finalement à exercer une présence forte au niveau des hommes à travers le langage, oui, et à travers une foule d'expressions autour de ces mots-là.
Alors oui, il y a beaucoup d'expressions. Tout à l'heure, j'ai commencé par tenir le loup par les deux oreilles. Bon, et alors je ne dis pas évidemment Hurler avec les loups, il y en a toute une série qu'on connaît. Être enrhumé comme un loup, on l'a un petit peu perdu. Fort enrhumé, c'est la voix rauque du loup. Bon, manger comme un loup, là, il n'y a pas de, vraiment de problème. Enfermer le loup dans la bergerie, ça, on le connaît. Avoir vu le loup, bon, ça se dit moins, mais avoir vu le loup, c'est un peu le chapeau rouge qui a vu le loup, c'est-à-dire bon, qui a subi... on va se mettre du côté, évidemment, de la jeune femme ou de la jeune fille qui est séduite et qui a vu le loup, et qui a eu le commerce, comme on disait, avec un homme. Alors, danser le branle du loup, ça, c'est moins courant, et on l'imagine moins parce qu'on voit le loup courageux, mais il y a eu aussi le loup pleutre. Et on le voit à travers Isengrin, d'ailleurs, au Moyen-Âge. Oui. Et danser le branle du loup, c'est exactement comme le chien qui met la queue entre les loups, non, entre les loups, entre les jambes, et qui, par conséquent, est peureux. En fuyant le loup, il a rencontré la louve. Savoir la patte nôtre du loup, c'est-à-dire cette prière, parce qu'on est face au loup, bon, si on ne sait pas la prière magique, eh bien, on est dévoré. Faire des contes en vieux loup. Faire des contes, c'est-à-dire raconter des histoires, comme le petit chaperon rouge, dans le fond, et aller très loin dans ce sens. Être sacré comme la patte de loup. Et donc, être comme le loup qui n'a jamais vu son père. Parce qu'on montrait aussi, et à travers ça, on a les représentations du loup. Le loup, la louve s'occupant de ses louveteaux de manière magnifique. Et on le retrouve dans Vigny, dans les Destinées, où on voit la louve qui protège ses petits. Mais le loup... sitôt les louvetonnés étaient présentés comme s'enfuyant et s'en occupant pas. Donc être comme n'avoir jamais vu son père, en fait, être comme le loup. Donc on a toute une série d'expressions de ce type. Alors du côté du chat, bon, y en a qui ont disparu aussi. Le chat se levant très tôt, dès que les chats seront chaussés, pour dire de très bon matin. Voilà, des pots trombinés. C'est-à-dire on voit l'arrière du chat. Emporter le chat de la maison, c'est-à-dire s'en aller sans rien dire. Le chat, alors partir chat en poche ou acheter chat en poche, hein, une formule courante qui n'a pas été très bien expliquée. Certains ont dit que c'était chat du chaton et du diamant. Bon, c'est semble-t-il pas ça. D'autres ont dit que c'était la maison parce que au Moyen-Âge, quand on disait chaser, ça voulait dire avoir une maison. Donc on l'a dans la chaise Dieu, on a des mots encore comme ceci. Mmh. Et puis on pense tout simplement que c'était vraiment l'image du chat, c'est-à-dire qu'il est installé dans la maison, on a toute confiance et on achète et avec le chat. Alors il y avait aussi le fait de prendre le chat, si vous voulez, de se tromper, quand on vendait un lapin et on mettait chat en poche, chat en gypsière. En fait, on vendait un lapin... mais c'était un chat qui était dans la poche. Donc acheter chat en poche, c'était ça aussi. Peut-être se faire rouler sans avoir vérifié que c'était pas un chat mais un lapin. Donc il y a beaucoup d'explications. L'art de bons étymologistes que je reprends et auquel je ne me substitue pas, c'est de ne pas affirmer quand on ne sait pas trop. Hein. Donc le chat, évidemment, il y en a des délicieuses. Hein. Avoir l'air d'un chat qui chie dans la braise. Bon, alors là, c'est joli, bon. C'est-à-dire, on a l'air ridicule. Bon, on en a d'autres aussi. Pendant que le loup chie, la brebis s'enfuit. Bon, c'est assez juste. Et donc, on a comme ça des expressions un peu vulgaires, mais enfin, qui ne manquent pas de sel. Quant au vin, alors le vin, non, il y a toutes sortes de... Il y avait le vin chasse-cousin, je vous en ai parlé. Il y a le vin de l'étrier. Quand on prenait... on pensait qu'un peu de vin, on en était persuadé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous limite à 2 verres de vin maximum pour conduire. Mais on aurait été au 17e, 4 ou 5 seraient bien vus. Donc le vin de l'étrier, c'était boire bien du vin pour être à l'aise sur le cheval et se sentir vraiment décontracté. Il y avait évidemment le vin d'une oreille, je l'ai dit. Un vin qui n'a que l'épée et la cape lorsqu'il est fluié et qu'il a peu de choses. Un vin bon à laver les pieds de chevaux. Bon, on a compris qu'il n'était pas bon. Le vin de Bretigny qui fait danser les chèvres, ça c'était une catastrophe. Et puis alors, il y avait des vins effrayants, le vin émétique, on y mettait de la poudre de verre, du régule et de l'antimoine. Alors pas s'étonner que ça fasse vomir, c'était vraiment plus que le vin chasse-cousin, c'était le stade supplémentaire. C'était presque... Et alors il y a toute la série des vins, vous savez on dit quel vin avez-vous? Alors on a gardé le vin triste ou le vin gai, mais il y avait toute la série, vin de pourceau. pas à peine d'écrire ce qu'est le vin de Pourceau, hein. C'est la personne qui va vomir sans hésiter. Le vin de Lyon. Le vin de Lyon, c'était quelqu'un qui ça lui donnait une énergie phénoménale. Le vin de renard, on devenait fourbe, fin. Le vin de singe, hein, on devenait joyeux, on dansait. Le vin d'âne, bon, hébété. Le vin de cerf, ça c'est mélancolique, les grandes larmes. Le vin de pie, c'est évidemment la personne qui parle énormément. Et puis alors, il y en a qu'on a du mal à comprendre. Le vin de Nazareth, on se dit, tiens, ça doit être quelque chose de religieux et de profond. Non, c'est répugnant, c'est quand la nourriture ressortait par les naseaux. Donc Nazareth, hein, Nazareth. Donc je passe sur ce détail. Donc on a comme ça toutes sortes d'expressions, évidemment. Et puis il y avait aller à la messe des trépassés. Donc à la messe de ceux qui allaient mourir, c'était quand quelqu'un avait déjeuné avant d'aller à la messe, qui était vraiment monstrueux, il méritait l'enfer, il allait donc à la messe des trépassés. Donc on a toutes sortes d'expressions, hein, que je ne vais pas reprendre une par une, mais qui ne manquent pas évidemment de charme.
Oui, il nous reste juste quelques minutes avant la fin de cette... voilà, il y avait aussi quelques proverbes et citations que l'on pouvait évoquer. Mais là, il y en aurait des quantités.
On va la résumer. Il y a in vino veritas. Moi, je crois que indico veritas serait pas mal aussi. Serait pas mal. Très bon.
Oui, bah, je pense que ça va nous faire une excellente conclusion. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser éventuellement?
Bon, c'est un tropisme, c'est évident. Alors, je vais vous répondre de manière vraiment scandaleuse. Mon enfance s'est très mal passée, puisque j'ai passé mon enfance à Vichy. Et donc, la Célestin, la Vichy-Saint-Pierre, tout ça n'avait pas de secret pour moi. Et après, quand je me suis marié, mon beau-père était viticulteur dans le Languedoc, et on finissait les fonds de bouteilles, c'était, il y avait meilleur quand même. Donc il me semblait que j'avais une revanche à prendre avec le vin. Et donc j'ai essayé, c'est ce que j'ai essayé dans ces bouquins, d'y mettre aussi des illustrations. Par exemple, j'ai mis des illustrations de ceux qui font les bouchons dans l'encyclopédie. Des illustrations qui ajoutent quelque chose sur le chat. La musique des chats. Le chat, par exemple, il y a une illustration invraisemblable où on voit le chef d'orchestre, parce qu'on a toujours pensé que le chat savait chanter, miauler, il a un miaulement particulier. Et il y avait des gens qui allaient de village en village avec des boîtes, c'était monstrueux. Il y avait un chat dans chaque boîte et la queue dépassait. Et alors, vous imaginez l'instrument de musique que ça faisait. Les gens tiraient les queues du chat pour obtenir un concert, une symphonie, les pauvres chats. Bon, ils avaient dû vite comprendre qu'en miaulant vite, ils évitaient le... Enfin bon, c'était assez cruel. Donc voilà, le vin. Alors le loup, après c'était le hasard. Ma belle-sœur dirigeait un musée du loup. On m'a demandé de parler du loup. Bah, j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. Puis après, bah, le suivant qui était la mer. C'est parce que vraiment, bah, j'étais sensible à ça. Le prochain, c'est le chocolat. J'aime le chocolat, évidemment.
Pour faire un mauvais jeu de mots, le loup de mer.
Ah oui, le loup de mer, c'est très bon. Très bon. Ah ben ça vient exactement de la même chose, c'est celui qui a beaucoup d'expérience. Hein. Et donc le loup, le vieux loup étant celui qui a beaucoup d'expérience, le loup de mer, bon avec les moutons sur la mer, hein, on a aussi cette image, le loup de mer veillant sur les moutons de la mer, donc on a toute une sorte de filiation bon, qui est récupérée. Il y a le loup aussi évidemment, le masque noir, et puis les loupés. Loupés, le loup c'était la chose ratée, marron, cruelle. Et donc, lupus, évidemment, pour la maladie, mais le loupé aussi, un loup dans un morceau de métal, par exemple. Voilà, voilà.
Très bien. Bah, écoutez, je pense que nous allons conclure, alors, fort malheureusement, parce qu'on y passerait des heures, c'est absolument passionnant. Donc, je vous encourage très, très, très vivement à vous procurer le vin, le chat, le loup et tous les autres. Et si vous souhaitez rencontrer Jean Pruvot, il va passer à l'espace dédicace, il est à votre disposition. N'hésitez pas à aller le voir parce qu'il pourrait vous charmer comme ça pendant des heures. Et je suis sûre qu'il aura encore beaucoup de choses à vous dire à travers ses livres. Merci pour votre attention.
D'ailleurs, il y a la mer aussi, demain c'est
la fête des mers. Il y a la mer aussi, oui, absolument.
C'est très facile.
Donc Jean, merci vraiment pour cette intervention et merci à notre public.
Merci beaucoup.
Voilà. Je suis désolée, j'ai dû interrompre, mais bon, on a un planning un peu serré.
Oui, c'est normal.
Ça va, ça s'est bien passé, ça vous a
convenu? Oh, formidable. Oui.